Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Bonjour à tous, Jérôme Béglé, William Golnadel, Geoffroy Lejeune, Olivier d'Artigol. Nous sommes à la veille du grand jour, 31 janvier. On verra demain combien de manifestants seront dans la rue. Emmanuel Macron s'est exprimé il y a quelques instants. Cette réforme est indispensable.
Je pense qu'il ne faut jamais oublier de dire que cette réforme, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. Et vous comprendrez bien que ce n'est pas depuis les Pays-Bas que je vais vous donner un commentaire sur ce que la Première ministre dit. Quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens.
Elle est tellement indispensable qu'il disait le contraire il y a 3 ans. Et elle est tellement indispensable qu'elle arrive après 6 ans de son quinquennat. Mais elle est indispensable.
Si vous voulez me faire dire qu'ils font mal de la politique, oui. En plus, aborder cette réforme comme ça, c'est comme entre deux phrases, comme ça, lors d'une conférence de presse avec un homologue qui vient papoter à Paris, c'est sûr que cette réforme est importante, même si on peut ne pas être en accord avec elle. Et ça nécessite qu'on se pose un petit peu, qu'on discute, qu'on fasse des phrases un peu plus longues que ces 3 interjections. Voilà. Après, vous connaissez mon avis sur cette réforme, mais ne nous engueulons pas tout de suite.
Ils ont essayé de faire des phrases un peu plus longues,
en
expliquant d'abord qu'elle était juste, ils n'y sont pas arrivés, en nous disant après qu'il y avait peut-être du salé, mais qu'ils rajoutaient du sucré. Personne n'a couru après cette fable. Et le dernier argument est de dire, de toute manière, c'est pour éviter l'effondrement financier du système. Là encore, ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui mettre sur la table pour essayer de regagner une partie de l'opinion publique? Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui?
La comparaison avec nos voisins, ici, elle est terrible, parce que dans l'inconscient collectif, il y a le côté, on fait ça pour plaire aux Allemands, à l'Europe, etc. Là, ils nous parlent de nos voisins,
ça
s'aligne absolument.
Mais on pourrait lui répondre que les non-vaccinés sont réintégrés en Europe. En fait...
Non. C'est un argument d'autorité qui ne fonctionne pas.
Mais bien sûr. Bon.
Alors, on a le droit de dire quand même que ce qui nous a foutu dans une panade pas possible, c'était la réforme des 35 heures. Et que Mme Aubry et M. Strauss-Kahn, quand il y a 20 ans, ils disent tiens, on va passer de 39 heures à 35 heures, alors qu'à ce moment-là, déjà, on commençait à relever la durée de temps de travail chez tous nos voisins, là, on a agrandi un écart en notre défaveur forte.
Alors, la com,
et ça n'a rien fait sur le chômage.
La com, et puis, alors, il s'est passé aujourd'hui, il y a une commission. Donc un premier échange, donc ça va être intéressant. Simplement, la com' du gouvernement. Madame Borne, elle est dans le rôle du matador qui va piquer le taureau, lui tirer la queue, juste avant d'entrer dans l'arène. C'est assez drôle. Si elle voulait projeter des manifestants demain dans la rue, elle ne s'y prendrait pas autrement. Ce n'est plus négociable, dit-elle. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ce n'est plus négociable? Ça veut dire quoi
Ça l'a jamais été, d'ailleurs.
Ça veut dire quoi aux manifestants qui sont dans la rue demain? Ça veut dire quoi? Vous servez à rien? Vous faites ça pour... Pourquoi vous êtes dans la rue? Je ne vous entends pas? Je vous méprise?
Vous avez l'ironie facile. Moi, oui. Et vous avez raison, d'ailleurs. Non, mais d'ailleurs, vous avez raison, parce que ce gouvernement incite à l'ironie. Effectivement, vous avez raison. Moi, je pensais, il y a 3 ans, qu'il fallait déjà réformer ça. Et je le pense toujours.
Oui.
C'est vrai que je n'ai pas envie de forcément faire plaisir à ce gouvernement qui va faire quelques économies alors même qu'il a utilisé l'argent magique. Je suis d'accord avec vous, mais je vais...
Mais je vais vous poser moi des questions.
Le même rôle ingrat que
je vais vous poser des questions toutes simples.
Il a fini sa phrase.
Mais j'ai été interrompu immédiatement par...
Je vais vous poser des questions toutes simples.
De penser... Je ne m'honore pas de faire partie. C'est pas un club, du petit club de 30% de gens qui pensent effectivement, de manière ingrate, qu'on ne peut pas rester comme ça et que l'argument, contrairement à ce que vous dites, et que l'argument de voir que la plupart des peuples européens qui ne sont pas plus robustes que les Français qui travaillent plus longtemps n'est pas non plus un argument totalement rejeter.
Bon, alors avançons. Et puis après, on va écouter pas mal de petites séquences parce que ça m'intéresse quand même. On va écouter Monsieur Darmanin bordéliser le pays. Pareil, il parle de l'ANUPS. Oui. Bon, c'est les gens qui vont être dans la rue demain. Est-ce que c'est utile de le dire?
Non, mais on est obligé de les. On est obligé de les caresser dans le sens du poil parce qu'ils vont aller.
Je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a eu des élections législatives. Oh. Que ces gens représentent un courant.
Eh ben, on a le droit quand même de dire qu'ils veulent bordéliser.
On a tous les droits.
Il manquerait plus qu'on traite ces gens-là avec des pincettes. Ils insultent tout le monde. Mais il faudrait en plus qu'on les caresse dans le sens du poil.
Les personnes qui sont dans les cortèges, enfin, c'est pour bordéliser le pays. Les personnes qui sont dans le cortège.
Alors écoutez, Monsieur Darmanin. Et
je crois qu'il y a aujourd'hui, mais tout le monde le constate, chez la NUPES et singulièrement à la France insoumise, des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail, et qui mentent finalement aux Français parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler. C'est irrespectueux envers les classes populaires et effectivement, je crois que la stratégie de M. Mélenchon, c'est de bordéliser le pays et il faut évidemment tout faire pour éviter que cela ne soit au rendez-vous. C'est ce que font les policiers et les gendarmes dans ces manifestations. Je les en remercie une nouvelle fois et c'est ce que va faire l'Assemblée nationale très bientôt. Et on sera tous, je crois, attentifs à ce grand moment de démocratie à l'Assemblée et au Sénat.
Bon, la soixantaine de députés de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale commençait à plancher sur le texte, qui prévoit un recul, on le rappelle, de 62 à 64 ans. Et je vous propose de voir peut-être quelques échanges aujourd'hui, parce que ça, c'est quand même l'actu fraîche. Et écoutez cet échange, ou plus exactement ces interventions, de Mme Panot et de M. Ruffin, qui sont de la France insoumise.
Plus vous parlez, plus le nombre de Français qui sont contre cette réforme augmente. Plus vous parlez, plus les gens comprennent que ce sont effectivement les femmes qui vont être pénalisées. C'est d'ailleurs le ministre Riester qui le dit. Plus vous faites de la pédagogie, 2 semaines de pédagogie du gouvernement, c'est plus 13 points de Français et de Françaises qui sont contre cette réforme.
Vous êtes au service aujourd'hui avec ce projet, très clairement des fonds de pension, plutôt que des salariés français, contre tous les syndicats de France, contre 7 Français sur 10, contre 8 salariés sur 10, même contre des patrons. Vous vous radicalisez. Vous vous radicalisez, vous êtes aujourd'hui dans un extrémisme pour imposer cette réforme contre un corps social qui n'en veut pas, que vous brutalisez.
Bon, la difficulté, c'est que vous avez 68% des gens qui sont contre. Et on ne sort pas de cette équation, donc on peut aller contre. Mais ça laisse des traces après, me semble-t-il.
Moi, je pense qu'il y a deux radicalisations. Il a raison, Ruffin, sur la radicalisation du gouvernement. C'est-à-dire qu'Elisabeth Borne, qui montre les muscles 2 jours avant une manifestation, c'est une radicalisation. Darmanin, qui fait la même chose, c'est un peu une radicalisation. Mais il y a une radicalisation aussi de leur côté. C'est-à-dire qu'eux, en fait, eux, comme d'ailleurs une partie des syndicats, ceux qu'on cite tout le temps, vous savez, qui veulent couper le courant, etc., ils se savent minoritaires à l'origine dans l'opinion et ils sont trop contents de voir tout à coup qu'il y a des cortèges immenses qui rejoignent leur combat. Et donc, je pense que ce sont deux minorités radicalisées qui se renvoient la balle en permanence, qui n'existent que l'une par rapport à l'autre. Et la vérité, c'est que je ne veux pas donner l'impression de parler au nom des 70% de Français qui sont opposés à la réforme, mais moi j'ai l'impression que le vrai ressort de cette mobilisation, c'est arrêter de nous emmerder. C'est des gens qui n'ont pas envie, qu'on leur dise tu vas bosser.
Non, mais il y a deux questions qui sont essentielles. Est-ce que cette réforme est indispensable? Et pardonnez-moi la réponse.
Non.
Le président du corps explique qu'elle n'est pas indispensable. Des voix s'élèvent pour dire que c'est pas. Et est-ce que cette réforme est juste? C'est les deux seules questions. Donc après, chacun y répond. Moi, je pense que les gens qui sont en très grande... Est-ce qu'il est juste? Et moi, je vous pose la question tout simplement. Est-ce qu'il est juste que quelqu'un qui tienne un marteau-piqueur termine à 64 ans comme vous, par exemple, ou comme n'importe qui? C'est une question toute simple. Vous en pensez quoi?
J'en pense que vous oubliez simplement un petit détail qui s'appelle l'Assemblée nationale.
Non, mais vous ne répondez pas à la question.
Non, mais je suis désolé.
Vous ne voulez pas répondre à ces questions. Parce qu'en fait, elles vous ennuient, ces questions. Pardonnez-moi de dire comme ça. Vous allez faire une phrase, mais moi, je vous pose une question simple. Mais si, elle est simple, ma question. Répondez oui ou non, point.
Non, c'est pas juste.
Mais c'est très gentil.
C'est pas juste.
Non, mais c'est
tout. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait un métier très pénible et qu'il faut le prendre en compte.
Pascal, votre question, elle est caricaturale parce que dans la vie, ça se passe pas comme ça.
J'aimerais répondre. Comment il fait l'italien? En quoi l'italien est plus robuste que le français?
Mais j'aimerais répondre à Jim Williams sur le Parlement et l'Assemblée nationale.
Oui. Monsieur Pro, il passe. C'est uniquement un dialogue entre Monsieur le Président de la République et puis le peuple.
Mais je vous prouve qu'il y a une Assemblée nationale. Prenons l'argument.
L'Assemblée nationale, il a perdu les législatives. Ça vous va? Il les a perdus.
Je vous dis, Pascal,
qui les a gagnés?
Prenons le moment
parlementaire. Il doit composer.
On va voir. On verra ce que dans
le texte.
Alors, allons sur l'explication parlementaire. Ouais. Comment expliquer que sur une réforme aussi importante, dont le pays s'inquiète, tu passes par un projet de loi rectificatif de la sécurité sociale, que tu peux enclencher en 49.3. Donc il peut ne pas y avoir, y compris, de vote. Et il y aura d'autant moins certainement de vote qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale aujourd'hui sur ce texte.
Mais on verra. On n'en mourra pas. Hein. Ah, mais je veux dire, s'il n'y a pas de
majorité. C'est pas le problème. Hein.
Mais c'est très important.
On s'interroge même sur la constitutionnalité du texte.
Eh bien, vous irez devant le Conseil constitutionnel.
Oui,
respecter la loi.
Ah oui.
Moi, je voudrais répondre à votre question sur le marteau-piqueur. En fait, c'est vraiment la bonne question. Si on veut que la personne qui tient un marteau-piqueur ne s'arrête pas à 64 ans, mais à 62 ans, voire à 60, si on veut ça, il faut assumer, premièrement, de dire aux gens, de permettre aux gens de faire des enfants dans les meilleures conditions pour les 20, 30, 40 ans qui viennent. Et deuxièmement, qu'il y ait plus de gens qui bossent. Je pense que c'est un des problèmes aujourd'hui. Il y a quasiment un Français sur deux qui ne paye pas d'impôts. Il y a beaucoup de Français qui ne travaillent pas. Il y en a aussi beaucoup qui ont intérêt à rester en dehors du travail plutôt que de travailler parce que sinon, ils gagneraient moins en travaillant. Et c'est un problème que le gouvernement n'a pas le courage. Et les salaires aussi. Mais le gouvernement n'a pas le courage de l'affronter. Donc pour cette raison-là, il va taper toujours les mêmes, c'est-à-dire ceux qui bossent, qui payent déjà des impôts, les fameux gilets jaunes, on les connaît par cœur. Le fameux marteau-piqueur de 60 qui finira à 64
ans, sous-préfecture.
Parce que c'est celui qui ne peut pas se rebeller.
Alors, moi, je rejoins Geoffroy sur une chose, c'est que le temps était venu de faire un grand débat sur qu'est-ce que c'est que le travail. La valeur travail, elle a complètement changé ces 15 dernières années, et le Covid et le quoi qu'il en coûte l'a encore un peu plus basculé. À quoi ça sert? Est-ce que ça libère? Comment il faut travailler? Le télétravail, dans quelles circonstances?
Mais
travailler à 20 ans, travailler à 60 ans, c'est pas la même chose. Travailler dans le service, travailler dans l'industrie, travailler dans le secteur privé, c'est la même chose. Ce grand débat, je le trouve passionnant.
Et après, tu pouvais faire
je suis d'accord avec vous. Et là, on a un débat de petits hommes gris et de technocrates et de calculs.
On a pris un tout petit problème qui était est-ce qu'on va travailler un peu plus longtemps? Vous connaissez mon avis là-dessus. Mais je pense que le temps est venu de se dire voilà, travailler, ça sert à quoi? Ça apporte quoi? Ça retire quoi?
Et bien justement.
Ça philosophiquement, économiquement, socialement passionnant.
C'est plus de la philosophie que de la politique.
Non.
Et bien justement, pour aller dans ce que vous dites, écoutez Sandrine Rousseau et Thibault Bazin, qui est un. Sandrine Rousseau, elle a parlé du droit à la paresse.
Le fléminisme. Elle parle du fléminisme.
Thibault Bazin lui a répondu, qui est un député, je pense, des Républicains. Et écoutez cet échange, puisqu'il illustre ce que disait Jérôme.
Philosophie. Justement, sur le droit à la paresse, parce que je sens bien que ça vous a quand même un tout petit peu perturbé, voire traumatisé, cette affaire que nous ayons droit à la paresse. Je rappelle quand même que le temps libre, et ça fait partie du progrès social, ça fait même partie de nos conquis sociaux essentiels, ça n'est pas uniquement de la reconstitution de notre force de travail, mais c'est du loisir, c'est du temps pour nous, que ça s'appelle les congés payés, que ça s'appelle la diminution du temps de travail. Qu'en 1950, nous travaillons 1900 heures par an, quand aujourd'hui nous en travaillons 1400 en moyenne, et que c'est ça le sens du progrès, et que par ailleurs, plus nous travaillons, plus nous produisons dans une économie qui n'est pas décarbonée, plus nous allons dans le mur climatique. Donc maintenant, il faut vraiment ouvrir les yeux sur notre système économique et social. Oui à la paresse et oui à la réduction du temps de travail.
Je pense qu'il ne faut pas confondre paresse et repos. Parce que le repos suit le travail, alors que la paresse, c'est une forme de goût pour l'oisiveté. Et si on veut, à un moment, apporter une protection sociale, il faut s'en donner les moyens. Et les moyens, ça passe par le travail. Tous ceux qui sont en capacité, en âge de travailler et qui ont droit à un repos une fois qu'ils ont travaillé, ils peuvent le faire.
Dans le monde de Madame Rousseau, on ne sait pas comment on finance tout ça.
C'est ceux qui bossent qui payent pour les autres.
Non, mais oui, mais alors on ne sait pas qui finance. C'est-à-dire qu'effectivement, elle-même est caricaturale sur ces plans-là.
Une voix minoritaire à gauche.
Minorité pas si minoritaire.
Dans la commission des affaires sociales, oui.
Non, les communistes, on est d'accord, sont pas d'accord avec ça. Par contre, sa voix porte de plus en plus.
Ah oui.
Et chez les Verts.
Et notamment auprès d'une jeune génération, mais faut aussi, et c'est là que Jérôme a raison, la jeune génération, elle a deux soucis. Effectivement, elle a le sens du travail, mais elle a quelque chose que vous ne pouvez pas nier, c'est la faiblesse des salaires. Quand tu as 26, 27 ans, que tu rentres dans la vie active, que tu habites Paris et que tu gagnes 1 400, 1 500, 1 600 euros, comment tu fais, Jérôme ? Disons les choses, quand nous, on est entrés à Paris dans la vie professionnelle à la fin des années 80, d'abord, on gagnait mieux, on vivait mieux parce qu'on pouvait se payer un loyer. Comment vous faites aujourd'hui, ben, quand même ?
Je vais vous donner un truc.
Ans, les entreprises doivent augmenter les salaires.
Je vais vous donner l'autre jour, je me suis penché sur ma première fiche de paye, mon premier CDI. Oui. Combien il était, oui. C'était évidemment en francs, et j'ai comparé à ce que je donne à des journalistes aujourd'hui en CDI. 35% de moins. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon premier CDI en 1999, j'avais 35% de plus que ce qu'on accorde aujourd'hui. Donc effectivement,
mais ça change tout.
C'est incompréhensible. C'est même presque... C'est anormal.
Un enseignant.
C'est anormal. Mais alors, après, on peut expliquer ça de mille et une façons. En plus, entre-temps, le coût de la vie à Paris et la façon de se loger...
Un enseignant, dans les années 80, commençait à 2,5... Un enseignant, au début des années 80, commençait à 2,5 SMIC. Aujourd'hui, il commence à 1,4.
Je fais juste une parité. Ces grandes questions sur le travail, on devrait se les poser.
Mais parce
qu'il faut... Et qu'à la fin, ça, tout le monde dit, écoutez, vous voyez bien que pour payer... les retraites dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, il faudra qu'on travaille plus parce qu'on sera plus qu'à 1,2 à payer des retraites actifs pour payer des retraites. Si on aboutit à ça, moi, je trouverais ça normal parce qu'encore une fois, mais je trouve qu'on a, adressé le sujet à courte vue. Voilà.
Mais j'entends bien. Et qu'est-ce que j'ai trouvé le plus intéressant aujourd'hui dans tout ce que j'ai lu ?
Je ne sais pas.
Qu'est-ce que j'ai écouté le plus intéressant ? Le plus moderne ?
Nous ?
Non.
Édouard Balladur dans le Figaro.
Édouard Balladur dans le Figaro.
Formidable.
Édouard Balladur dans le Figaro. Édouard Balladur.
Formidable.
1929.
Il n'y a jamais que 90 ans.
Mais peu importe.
93.
Tout ce qu'il dit.
Il y a 93 ans.
Tout ce qu'il dit ce matin, j'invite tout le monde à le lire. C'est une leçon de modernité et d'intelligence. Rarement notre pays a connu des difficultés aussi graves, dit-il, que ce soit dans les domaines économiques, social, éducatif, de la sécurité ou de l'immigration incontrôlée. Comme si nous assistions à un affaissement général, pour résoudre ces problèmes, nous avons besoin d'un gouvernement robuste. Il ne faut pas affaiblir ses moyens. Voilà ce qu'il dit. L'abstention d'une importance sans précédent. Est-ce qu'il y a de plus grave ? Les Français ne jugent plus utile de se déplacer pour voter parce qu'ils n'ont plus confiance dans ceux qu'ils doivent élire. C'est le signe de la crise de confiance que traverse notre pays. On traverse une crise non pas ni économique ni sociale, on traverse une crise intellectuelle depuis 30 ans. C'est le plus important. Et il le dit, pour y répondre, le gouvernement doit s'imposer des objectifs clairs, simples, les annoncer, se fixer publiquement des délais pour les atteindre et les atteindre vraiment. Il faut montrer aux Français que leur vote sert à quelque chose. Le gouvernement doit être exigeant envers lui-même s'il veut retrouver la confiance. Et il dit aussi... C'est certain sur la bureaucratie, c'est certain. Nous avons en France un goût de la complication. À force d'accumuler les règles, on arrive à la paralysie. Comment s'en sortir ? Tout simplement, on déclare qu'on n'appliquera pas la loi. Lorsque j'étais Premier ministre, j'avais envisagé de procéder à une réduction drastique du nombre des codes qui enserrent la vie publique. Code fiscal, social, local, régional, pénal. C'est ce qu'avait fait Trump en arrivant. Il avait fait un trait de plume sur 4000 lois, 4000 règlements.
Et c'est ce que font les Suisses régulièrement. Le code du travail suisse.
Donc tout est là
Non, pas tout.
Qu'est-ce qui n'est pas là ? Non, et je ne vous parle pas du septennat qu'il souhaite remettre en place. Et il a tellement raison.
Et vous oubliez sa critique acerbe et justifiée des institutions européennes. Il est sévère par rapport à l'Europe, et qui fait que les Français pensent qu'on ne prend plus de décisions en France, ils n'ont pas totalement.
Mais cette réforme, elle est faite pour faire plaisir à Bruxelles, et tout le monde le comprend.
Baisser la part des retraites dans le PIB,
elle est faite pour qu'on puisse continuer d'emprunter, et tout le monde le comprend.
Cet affaissement, c'est là où, c'est pas ma divergence, mais je pense que cet affaissement, il n'est pas qu'institutionnel. La réalité, elle n'est pas là. Cet affaissement, il est presque psychologique. Oui. Il n'y a plus d'autorité. L'autorité ne tombe plus d'en haut. Et il y a en plus, sur le plan médiatique, évidemment, une sorte de déferlement de démagogie tel que vous nous en avez donné un échantillon il y a quelques minutes de gens comme Mme Rousseau qui troublent un petit peu l'opinion et la jeunesse. Ça aussi, il faut comprendre cet affaissement-là.
C'est la crise intellectuelle que traverse la France.
Mais à chaque fois qu'il y a une décision...
Qu'on retrouve dans le cinéma, dans les médias, dans tous les domaines.
À chaque fois qu'il y a une décision
dans la littérature,
beaucoup d'autres choses encore.
Dans l'en politique,
alors là, vous allez monter au plafond, mais ça tombe bien, dans 30 secondes, il y a la pub, donc je vais pas me faire engueuler tout de suite. Quand il y a une décision courageuse qui est prise, par exemple de passer
l'âge de départ en retraite de 62 à 64 ans, tout le monde tombe sur le gouvernement en disant c'est injustifié, c'est injuste, il n'y a pas le feu, il ne fallait pas le faire comme ça. Bon. Donc si vous voulez, je suis parfaitement d'accord avec la crise d'autorité. Mais à chaque fois qu'il y a une décision courageuse et difficile à prendre, on est là, mon Dieu, il ne fallait pas la prendre. Soyons honnêtes avec nous-mêmes.
Relis le beau discours de Jaurès.
Mais ce que décrit Balladur, pardon, c'est le gouvernement
la vérité et la vie.
Dans un système qui ne produit plus de légitimité, c'est ça l'énorme problème.
Mais oui, évidemment. Voilà. Bon, on va marquer une pause. Ce que vous dites ne mérite pas de monter au plafond, excusez-moi. Donc, en revanche, c'est vraiment la modernité. Et en fait, comme toujours, celui qui s'est le moins trompé, c'est toujours intéressant de voir les prises de position à 40 ans de distance. Qui était contre le quinquennat ? Raymond Barre. Qui était contre la cohabitation ? Raymond Barre. Qui avait expliqué qu'il y aurait confusion, qu'on allait tout mélanger et que les gens ne croiraient plus en la politique précisément pour ces raisons-là ? Raymond Barre. Donc c'est intéressant de voir ceux qui ne se sont pas trompés.
Pas beaucoup trompé non plus.
Il n'a pas été élu.
Il a été premier ministre deux ans quand même.
Oui.
Je vous demande de vous arrêter. Bon. Pub.
Et non, mais il est pompidolien.
Mais c'est intéressant. Donc, comme on a fait là encore que de la com, pourquoi on fait un quinquennat pour la démagogie, pour de la com, etc.
Erreur funeste qu'on payera tant qu'on sera parvenu au septennat.
Eh bien oui. Ça serait. Bon, on vous ennuie pas ?
Pardon.
Non, vous dites.
Mais vous nous avez promis la pause, il n'y a pas de pause, on ne voit rien venir. Voilà,
on
tout.
S'inquiète.
Alors,
généralement, nous
je vous confirme qu'avec vous, on ne voit pas grand-chose venir. La pause et à tout de suite. Il est 20h30, Isabelle Piboulou nous rappelle les titres du jour.
Emmanuel Macron persiste, la réforme des retraites est indispensable quand on se compare en Europe. Une déclaration à la veille de la deuxième journée de manifestation intersyndicale. En conférence de presse à La Haye, le chef de l'État a assuré et soutenir les propos d'Elisabeth Borne. La première ministre avait déclaré hier que le report de l'âge de départ n'était plus négociable. Les transports ne seront pas épargnés par la grève de demain à Paris. Du côté de la RATP, seules les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement. Aucun train prévu sur la ligne 3 bis. Pour le reste, des modifications sont prévues selon les heures de pointe et les heures creuses. Trafic national fortement perturbé du côté de la SNCF avec 25 à 50% des TGV selon les axes de TER sur 10, de Ouigo sur 5 et aucun intercité. Noël Le Graët n'a plus la légitimité nécessaire pour administrer la Fédération française de football. C'est ce que pointe le rapport provisoire de la mission d'audit sur la FFF, compte tenu notamment de son comportement envers les femmes. Les dirigeants de la fédération ont jusqu'au 13 février pour prendre connaissance de ses conclusions et y répondre avant publication du rapport définitif.
Vous êtes très nombreux à nous écouter et à donner à nous faire part de vos réactions. Je lis un message qui m'arrive à l'instant. Ce n'est pas que les gens ne veulent plus travailler. Ils ne veulent pas que ce soit toujours les mêmes qui bossent, toujours les mêmes qui touchent les prestations sociales. Ils veulent de la justice entre ceux qui bossent et les autres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il est normal d'être aidé en cas de problème, mais on ne peut pas avoir des problèmes toute sa vie et compter que sur les autres pour vivre. Voilà des paroles de bon sens. Alors, moi, j'ai le sentiment qu'effectivement, cette réforme n'est pas comprise, parce que précisément aux des questions qu'on a posées, elle n'est sans doute pas indispensable, en tout cas pas perçue comme ça, et elle est perçue comme injuste.
Elle est comprise et rejetée, je pense qu'elle est comprise.
Oui, vous avez raison d'ailleurs. Elle est comprise, mais elle est comprise et on a compris qu'elle n'est pas terrible. Donc vous avez parfaitement raison. Donc elle est sans doute injuste, on l'a eu pour les femmes, pour ceux qui font des jobs pénibles, et elle n'est pas indispensable. Et Marisol Touraine, qui ne s'était pas exprimée depuis longtemps, avec ce totem des 64 ans qui n'est pas très habile. Franchement, c'est ce totem qui, là encore, en com, ce n'est pas très malin. Tu aurais mis 43 ans, tu dis 43 ans de
ce qui était la réforme Touraine d'ailleurs. Elle avait allongé le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une retraite à temps plein.
Il faut faire 43 ans pour certains, et puis d'autres pour 40 ans, et puis d'autres pour peut-être 37 ou 38. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, sans doute, en fonction des branches, il me semble. Qu'il y a une forme de bon sens en disant cela. Et que l'âge légal, il n'y a pas d'âge légal.
Pendant que vous y êtes, vous pourriez dire que les régimes spéciaux ne sont pas supprimés non plus.
Mais bien sûr, j'allais dire.
Et vous avez parfaitement raison. Dans votre critique, vous pourriez rajouter ça.
Et ça, ce serait courageux, vous avez raison. Parce que le comptable
de la SNCF... Vous expliquiez que le
250 000 personnes.
Pour le comptable, ce n'était pas...
Je l'ai dit, bien sûr.
Ça ne vous coûte
d'eau. Bien sûr. Mais...
Je vous propose d'écouter Mme Touraine et vous me dites ce que vous en pensez.
Cette loi, elle divise parce que on a le sentiment, enfin j'ai le sentiment que la mesure phare qui est le relèvement de l'âge légal à 64 ans est posée comme le totem du réformisme. Ça ne peut pas être cela. À partir du moment où il y a des inquiétudes et des tensions, et à partir du moment où cette mesure non seulement est perçue comme injuste, mais je crois profondément est injuste, alors il y a un risque pour notre pays. Et mon message, c'est pour l'unité du pays, pour la cohésion nationale, nous avons besoin d'une loi qui rassemble et pas d'une loi qui risque de se transformer en passeport pour le populisme d'extrême droite.
Je ne sais pas ce que vient faire le populisme d'extrême droite là-dedans.
Mais ça fait plaisir à France Inter.
Non, mais en revanche, qu'est-ce que vous dites de l'argument « les Français sont contre » ?
Mais les Français étaient contre la ceinture de sécurité. Non mais attendez, si on va par là, on peut tout vous prendre. Les Français étaient contre la vignette. Les Français sont contre les péages. Je peux vous en faire 25 côte à côte. C'est pas un argument, Pascal.
Vous appelez Pascal. Mais est-ce que tu sens pas que ce qui se passe sur un pays est un peu différent
de la
sécurité, que tu viens de prendre.
Franchement. Moi, je veux bien qu'on passe en force et qu'on.
Mais l'argument qui est de dire les Français sont pas d'accord, on le fait pas. À ce moment, on ne fait plus rien.
Et puis quand les Français, pardon de le répéter 50 fois, même si ça vous lasse, quand les Français sont très majoritairement, par exemple pour la suppression du regroupement familial, ça n'intéresse personne de les écouter. C'est quand même bizarre.
Mais ça, vous avez raison aussi. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut tout changer, en fait.
Oui, non mais.
C'est quand je vous dis qu'il faut changer de logiciel, c'est ça.
Peut-être
qu'il faut interroger un jour les gens sur quelques sujets.
Moi, si vous mettez un papier comme qu'on va faire un référendum sur la retraite et puis un référendum sur regroupement familial, je suis partant avec vous.
Moi, je prends aussi.
Voilà.
Bon, la mobilisation demain, on va voir le sujet de Sarah Tenzari, parce que c'est une journée particulière, ça va être compliqué, je ne sais pas comment vous allez vous déplacer demain, le mieux c'est de ne pas vous déplacer, vous regardez ces
news. Bus, j'ai vu que le bus, trafic très légèrement perturbé. Le bus, c'est pas bien le bus.
Non, mais le bus.
Monsieur Darrigol ne prend pas le bus.
Non, visiblement, mais la chauffeur...
Voyez le sujet de... Il y a surtout une grande inquiétude, parce que la manifestation, ce n'est pas le même circuit que la dernière fois. Elle passe boulevard du Montparnasse, qui est moins sécurisé, avec des endroits symboliques dans ce boulevard du Montparnasse. Donc, ils sont assez inquiets, pour tout vous dire, de l'organisation sécuritaire. Voyez cette journée demain annoncée avec Sarah Tenzari.
Une nouvelle journée noire est à prévoir. Dans les trains, les voyageurs sont invités à reporter leur voyage. La SNCF prévoit un trafic très fortement perturbé. 2 TER sur 10 et seulement 25% des TGV circuleront. Dans le métro parisien, seules les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement. Un métro sur 4 sera en service. Les bus et les tramways, eux, seront peu impactés. Ce sera aussi compliqué dans les aéroports. Air France va annuler un vol court et moyen courrier sur 10. Les liaisons long courrier ne seront pas affectées. Dans la fonction publique, les mairies comme celle de Paris ou Montreuil garderont porte close, tout comme les écoles. FSU prévoit 50% de grévistes dans le primaire ce mardi. Déjà très suivi le 19 janvier dernier, plusieurs autres syndicats ont appelé à la grève avec une volonté d'amplifier le mouvement. Un mouvement qui va par ailleurs être suivi dans le secteur de l'énergie. Les grévistes d'EDF devraient à nouveau faire baisser la production d'électricité dans les centrales nucléaires, sans pour autant provoquer de coupures de courant. 240 cortèges sont prévus dans toute la France, où 1,2 million de manifestants sont attendus, dont 100 000 à Paris.
Autre réflexion qui m'arrive et qui peut également vous faire réagir, nous avons choisi la consommation, le social, le loisir, l'immigration, la dette, plutôt que le travail et la production. C'est un choix collectif fait en 1981 qui a enclenché une lente descente vers le tiers-monde. La baisse relative des salaires est une conséquence parmi tant d'autres de cette implosion. Analyse globale de la société française depuis 1981. On pourrait répondre que depuis 1981, il n'y a pas eu que des gouvernements de gauche.
Non. Personne n'a mis en cause ce qu'a fait un gouvernement de gauche. La vérité, c'est le drame de la droite, c'est qu'elle n'a pas défait ce que la gauche avait fait, en fait. Et elle ne défait jamais ce que la gauche fait. René, là, vous parlez de Mitterrand.
Mais quand Nicolas Sarkozy permet de gagner plus en travaillant plus, excusez-moi, mais il va dans le sens de vouloir changer les choses.
Pas sur les questions sociétales.
Là, sur les questions de l'entreprise, il y a une volonté. Vous savez, à l'époque, les profs, ils étaient parfois très contents de faire des heures supplémentaires parce qu'ils gagnaient mieux.
Si je peux me permettre, Pascal, vous avez raison, ça a corrigé les effets négatifs du système.
Oui, il y a eu cette volonté.
Sauf qu'il n'a pas été élu pour corriger, en fait. Il a été élu pour changer le logiciel, comme vous dites. C'est-à-dire que ce que tout le monde, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai cru en 2007 quand j'ai voté pour lui, c'est qu'il allait rénover tout ça, changer, et qu'enfin, ces idées-là allaient gouverner. Ça n'a pas été le cas. Il a eu 5 ans, il s'est fait battre, et tout a été remis en
question. Quel est le premier déplacement de tous les derniers présidents? Dès le premier jour, l'Allemagne.
D'accord.
Et donc, l'Europe.
Et ce qui est intéressant, c'est que le premier déplacement des chanceliers et chancelières n'est pas forcément la France.
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire demain. Vous pensez que demain, il y aura plus de monde que la dernière fois? Vous avez une intuition sur le pays? Bon, vous pensez que ça va passer? Vous pensez plutôt que ça va passer, quoi, qu'il faut brutaliser les Français et qu'ils vont rentrer à la niche?
Non, mais d'abord,
c'est ça que vous pensez.
D'abord, ces gens-là ont le droit de manifester. Vous comprenez? Oui. Je suis un légaliste. Ils n'ont pas le droit de bloquer, mais ils ont le droit de manifester. Ah. Je pense qu'il y aura du monde, mais on ne gouverne pas avec des manifestations.
Alors, moi, j'ai des exemples contraires. En 1984,
oui. Le peu que je possède, je ne vais pas le parier sur la réforme. Hein.
En 1980.
Il y a un mensonge dans la phrase.
Non, mais en 1984.
Le peu que je possède ou le reste?
En 1984, François Mitterrand a remballé sa réforme de l'Église catholique, le grand service unifié et laïque. Et qui était le ministre, Monsieur Savary?
Pierre Mauroy et René Savary, ministre.
Non, pas René. C'était pas René. Je ne sais plus son prénom, mais c'est pas René.
André Savary.
Il a remballé. Il y avait 2 millions de gens dans la rue, en 84.
Oui.
95, pareil. En 86, les grandes manifs également des étudiants, la loi de Vaquet.
Bien sûr, mais non, mais je ne vous dis pas le contraire. Non.
Donc ça arrive quand même que la rue...
Bien sûr, mais c'est pour ça qu'ils manifestent.
Bon, d'ailleurs. Autre sujet, et un sujet alors là qui a intéressé... moi, j'ai été très frappé aujourd'hui combien ce sujet a passionné notamment les auditeurs que j'ai pu écouter. C'est le suicide du jeune Lucas. Et Lucas est donc un petit garçon, quoi, pas un petit garçon d'ailleurs, il a 13 ans, il s'est suicidé à la suite du harcèlement de, entre autres, 4 jeunes collégiens qui étaient avec lui. Qui vont d'ailleurs, ces 4 collégiens seront jugés au printemps pour l'avoir harcelé et poussé au suicide. Je ne sais pas comment on juge des jeunes gens de 13 ans, vous me direz, maître.
Déjà, on fait des peines divisées par deux.
Oui, mais 13 ans. Le harcèlement scolaire est désormais reconnu comme un délit pénal qui pourrait être puni jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée. Et la mère de Lucas, s'est exprimée aujourd'hui, c'était d'ailleurs déchirant.
Déchirant.
Puisque cette mère de famille est venue parler, son fils s'est suicidé le 7 janvier dernier. Et elle était devant les caméras pour...
La première fois qu'elle parlait depuis le 7 janvier.
Exactement, pour parler de son fils et pour honorer sa mémoire et puis vouloir être utile, c'est ce qu'elle disait. Je vous propose d'écouter cette mère de famille.
Pour honorer la mémoire de mon fils, pour lui rendre le plus beau des hommages, parce que c'était un super petit garçon, en fait. Et voilà, il vit à travers cet hommage, il vit à travers nous. Et voilà, je veux pas qu'on l'oublie. Et puis voilà, c'est notre manière à nous de le maintenir en vie.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre fils?
Je suis désolée. Je suis désolée parce que je n'ai pas pu le sauver. Et que personne n'a pu le sauver, en fait. Ça fait 3 semaines et voilà, on ne réalise toujours pas et... La colère, elle va être mise à bon escient, elle va être, on va mener le combat derrière et on ne va pas s'en prendre à qui que ce soit, on ne va pas pointer qui que ce soit, ça c'est clair, parce qu'on a, enfin voilà, on est quand même assez mature, enfin, on a autre chose, Lucas n'aurait pas voulu ça. Arrêtez, mettez-vous à la place derrière les harcelés et réfléchissez au mal que ça fait. Ça peut faire, même une parole et tout, ça peut faire beaucoup de mal à certaines personnes et... Il y a d'autres manières de parler, de communiquer. Enfin voilà, on est libre, on est tous libres en fait. Que ça plaise ou que ça plaise pas, on est tous libres.
Lucas s'est pendu le 7 janvier. Ses parents affirment qu'il était victime de brimades répétées de la part de quelques camarades de classe en raison de son homosexualité. Une enquête avait été ouverte le 12 janvier par le parquet d'Épinal pour tenter d'établir un lien entre ces accusations de harcèlement et le suicide de l'enfant. Comment est-ce qu'on juge des enfants de 13 ans ?
Vous pouvez toujours les juger, vous pouvez toujours avoir des textes répressifs très sévères. J'imagine que les avocats de ces jeunes gens vont dire qu'ils ne pouvaient pas imaginer un seul instant des conséquences pareilles. C'est tragique, hein, le sentiment d'impuissance de cette malheureuse maman est terrible. Je suis très touché par ça. Le harcèlement, il a toujours existé. Les enfants sont souvent méchants. Hein. Et par rapport aux gens différents, la différence. Hein. Je crois que, je peux me tromper parce que je ne connais pas la manière dont ça s'est passé là, mais la chose nouvelle aujourd'hui, c'est l'élément électronique. C'est que, bon, vous, dans la cour de récré, vous faites embêter, mais si ensuite on vous harcèle sur je ne sais pas quel instrument électronique, c'est horrible. C'est horrible parce que c'est diffusé à toute l'école, etc. Donc, pardon de vous dire, vous savez bien à quel point je ne suis pas laxiste, mais la maman elle-même, elle le dit merveilleusement bien. Elle ne va pas se déchaîner non plus. Elle va faire le combat, bien entendu, mais elle ne va pas se déchaîner parce que c'est... La réponse, là, franchement, elle n'est pas pénale. Il y a de l'éducation, il y a tout ça. Mais honnêtement, le phénomène du harcèlement, il est vieux comme l'école.
Et la mère de Lucas a mis en cause également l'école, puisqu'elle avait averti l'école, simplement.
Est-ce que l'école... C'est là qu'est le sujet.
Bah oui, est-ce oui, que l'école limites... a fait ce qu'il non, fallait mais... faire écouter là.
Oui, mais...
Si je l'ai déclaré une fois et que je l'ai redéclaré après, c'est qu'il fallait peut-être réagir quand même. Il aurait pu faire plus. Ils auraient pu faire plus.
Ils auraient dû faire plus.
Oui. Ah oui, clairement. Ah oui, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Donc oui, ils auraient dû faire plus. Enfin, c'est mon ressenti à moi.
Un enfant harcelé dans une cour de récréation, un enfant brimé et tapé dans une classe, un enfant même insulté sur les réseaux sociaux. Quand même, l'éducation nationale, le prof principal, les profs, le directeur, la directrice, doit le voir. Il doit mettre le holà, doit prendre les gamins en leur disant ce que vous faites est intolérable.
Et les parents.
Et les parents. Et vous avez des heures de colle et vous pourriez être exclu. Donc là, je pense qu'il y a une petite défaillance. Oui. J'ai tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Gélouia, mais c'est très intelligent.
Avec une nuance.
Mais que la mère ne dise je m'en veux, mais avec une... on doit quand même dire qu'as-tu fait, éducation nationale ? Qu'avez-vous fait, prof ?
Excusez-moi, mais j'ai un cas là-dessus. Avec cette nuance en plus terrible pour les responsables scolaires, qu'ils craignent ensuite. Que le môme en question, en plus de cela, passe pour une balance. Il y a ça aussi dans le système scolaire. Vous passez en plus pour une balance. Alors là, ça prend des
proportions. Ah, vous dites que c'est indémerdable, quoi.
C'est très compliqué. Bah. C'est horriblement compliqué. Oui, c'est pour ça que faire tout de suite le procès, je ne sais pas comment ça s'est passé dans cette école, mais faire tout de suite le procès des professeurs ou des directeurs, il faut faire attention à ça aussi parce que eux-mêmes, ils marchent sur...
Enfin, ça les promet témoins, quand même.
Oui, je ne vous dis pas le contraire. Peut-être qu'ils n'ont pas fait, je ne sais pas, mais j'apporte ça à votre réflexion.
En tout cas, il y a une défaillance d'adulte à tous les niveaux.
Voilà, c'est une histoire dramatique et le procès aura lieu.
Horrible.
Moi, ce qui m'a surpris aujourd'hui, c'est le nombre de témoignages que j'ai entendus d'enfants harcelés, de parents qui ne savent pas comment faire, d'adultes harceleurs, d'ailleurs, qui parlaient de... Quand ils étaient enfants, qu'ils avaient pu harceler, et combien ils regrettaient cette attitude, etc.
Donc, et là, c'est un pour prolonger le débat qu'on a eu tout à l'heure, c'est aussi l'autorité des parents sur leur môme. Pardon. De leur dire qu'il y a des choses qui ne se font pas, qu'il y a des limites à poser, et qu'il y a des sanctions, des punitions à adresser quand on s'est mal comporté avec un camarade de classe.
Dans l'actualité également, le président de la Fédération française de football n'a plus la légitimité nécessaire pour administrer. C'est l'audit sur la Fédération française de football qui devait être confidentiel, mais des bonnes âmes, manifestement, ont fait fuiter ce qu'il y a dans l'audit. Le foot français, compte tenu notamment de son comportement envers les femmes, c'est ce rapport. En fait, le rapport a été fait. A priori, il était confidentiel. Et Noël Le Graët et Florence Ardouin pouvaient y répondre. Mais il sera dans la presse demain matin.
La mission considère que, compte tenu de son comportement envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance de la FFF, M. Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer, et représenter le foot français. Ce rapport provisoire de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, diligenté par le ministère des Sports à l'automne dernier, constate par ailleurs que la politique de l'instance à propos des violences sexistes et sexuelles n'est ni efficace ni efficiente. Bon. C'est chronique d'un départ annoncé. Alors, est-ce qu'il va démissionner? Est-ce qu'on va le faire démissionner? Bon, mais on n'a pas besoin d'être grand clair.
Plutôt favorable. On dit qu'il a rétabli la situation financière de la Fédération française de football.
Oui, c'est vrai, oui.
C'est un rapport qui est, de ce qu'on a vu, parce qu'effectivement, il n'y a que des bouts qui ont fuité, donc c'est toujours sujet à caution, qui est relativement équilibré. Maintenant, vous avez raison. À partir de ces conclusions-là, les deux impétrants, Mme Ardoin et M. Le Graët, devaient pouvoir se défendre.
Non, mais il y a trop de témoignages sur un comportement qui...
Bien sûr, pour tout vous dire,
on est quand même étonné de ce qu'on entend, qu'un homme comme Noël Le Graët ait des propos déplacés à ce point... avec une femme avec qui il travaille pour lui dire « je voudrais le goût de vos lèvres » ou des choses comme ça. C'est minable.
Oui. Enfin, vous qui êtes pour la retraite à 62 ans, vous deviez être choqué qu'il soit réélu à 80.
Oui. Convenez que le comportement est, on dit déplacé, mais en fait, c'est minable.
Inapproprié.
Donc, voilà, Sonia Souid l'a rapporté également, bien ce qui lui dit « je suis à ma quatrième bouteille de champagne, j'attends la cinquième pour que vous veniez me voir ». Cet homme de 80 ans, elle a 25 ans, c'est minable.
Donc, c'est libidineux.
Il a fallu qu'il dise mal de Zidane pour qu'on se rende compte de tout ça. Moi, c'est ça qui m'amuse.
Oui, c'est vrai. Le point de départ, quand même, est assez étrange. C'est comme Al Capone qui est tombé parce qu'il n'a pas payé ses impôts.
La Rostor Payenne est proche du Capitole. Hein. Il arrivait avec la.
On va pas se raconter la messe, Pascal. Tout le monde savait ça. Enfin, beaucoup de gens savaient ça depuis longtemps. Et on a pris le petit bout de la lorgnette, l'affaire Zidane, qui est révélateur de quelque chose. Pour dire maintenant.
Tout le monde le savait, c'est toujours pareil.
Beaucoup de gens, certains.
Bah, ceux qui étaient à la fédération, sans doute, le savaient.
Bah oui, bah, c'est les mêmes qui aujourd'hui n'ont pas de mots assez sévères pour dire qu'il faut qu'ils dégagent. Et c'est les mêmes qui l'ont réélu il y a un an.
C'est pas exactement ça, mais.
Non, c'est pas totalement faux non plus.
Mais c'est vrai que la Fédération française de football.
C'est bizarre comme les fédérations sportives. Moi, je ne connais pas ce milieu-là. Oui. Vous le connaissez bien. C'est bizarre ce qui se passe dans les fédérations sportives.
Oh, c'est ni plus ni moins que ce qui se passe parfois ailleurs.
Ce qui se passe quand il y a des enjeux de pouvoir.
Avec beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir.
Voilà, le comportement des hommes avec les femmes, excusez-moi, ce n'est pas les fédérations sportives ont l'apanage de mal se conduire. Vous voulez quelques cas?
Oui.
Hein, qui se passent dans certains milieux?
Dites-nous. Vous suggérez des choses, des accusations assez graves. Maintenant, il faut étayer. Vous êtes allé trop loin, monsieur.
Mais manifestement, dans le cinéma français, il y a eu des histoires. Dans certaines télévisions françaises, il y a eu des histoires. Pardonnez-moi, c'est pas l'apanage des fédérations. On a découvert, jamais. Et j'imagine que
les avocats, jamais.
Si vous me permettez, s'il y a un milieu qui est incroyablement macho, c'est bien celui des avocats.
Ah oui. Mais il y a plus de femmes avocates que d'hommes aujourd'hui.
Écoutez, moi j'ai l'impression de voir beaucoup d'hommes.
Il y a plus de femmes avocates que d'hommes, ça y est.
J'ai pas remarqué.
Par ailleurs, il ne faut pas mélanger tous les problèmes de fédération.
Il y aurait beaucoup à dire sur le milieu des avocats, sur l'ordre des avocats, sur le... l'orientation idéologique aujourd'hui des avocats, mais sur le machisme,
je dis une bêtise, il est possible.
Je n'ai pas remarqué.
Ça ne vous arrive jamais.
C'est Alain Savary.
Alain.
Il avait appelé André.
André Savary, c'est
Alain
pas...
Savary. Alain Savary. Il y avait 40 ans. On peut peut-être terminer. Ça vous inspire pas beaucoup, manifestement, l'affaire de la Fédération française de football.
Si. Mais il y a la donnée politique.
Vous
adorez tirer sur les ambulances. Bon, voilà.
Moi, je peux défendre les ambulances.
Qu'est-ce que je vous dise ?
Je suis un peu peiné qu'on fasse l'amalgame entre toutes les fédérations. C'est-à-dire, il y a le handball avec des affaires de mœurs horribles. Oui. Il y a le football qu'on vient d'évoquer. Et il y a le rugby avec Bernard Lapointe.
Alors, le rugby, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas du tout la même chose.
Je voudrais en profiter pour le défendre. On vient de perdre le président de la Fédé de rugby, un an avant une Coupe du Monde, qui est un type exceptionnel, qui a un charisme hors du commun,
qui a ramené la Coupe du Monde en France en plus. Ce sont des équations personnelles.
Qui a entraîné l'équipe de France dans des grandes heures, qui a été un joueur, etc., qui est un type absolument génial pour une histoire politico-financière compliquée où il clame son innocence. Et on s'en prend un an de la Coupe du Monde. Moi, je suis désespéré par cette affaire.
Évidemment. On est d'accord.
Vous avez raison.
Vous faites bien, effectivement, de défendre le président Laporte, qui en plus a...
Personne ne le défend, la presse sportive ne le défend pas.
Ah non, mais c'est pas que la presse sportive ne le défend pas, c'est qu'il subit une campagne de presse...
C'est monstrueux, en fait.
À charge, on va le dire comme ça.
Alors que pour le coup...
D'un des principaux ou du seul journal...
Le JDD lui donnait la parole il y a trois semaines.
Non, comment ? D'ailleurs, merci, parce que...
Non, mais là, il est...
Non, mais on a l'impression que...
Disons-le, le journal L'Équipe est à charge sur Bernard Laporte depuis trois ans.
Alors qu'autant, on peut pas donner tous les mérites de Didier Deschamps à Noël Le Graët, mais dans le cas de Fabien Galthié, il y a une vraie relation entre les deux. Si on a un 15 de France qui cartonne en ce moment, c'est quand même grâce à lui en partie, quoi.
Bon, vous avez vu également dans l'actualité ce qu'a dit Boris Johnson sur... il a rapporté des mots de Poutine. Des mots de Poutine qui lui avait dit « En une minute, je t'écrase. »
Bon. Il aurait dit.
Le Kremlin a accusé de mensonge.
Comment ? Monsieur Poutine a démenti. Et oui, il arrive que Monsieur Johnson prenne des libertés avec la vérité.
Poutine ne va écraser l'Ukraine en une minute, ça fait un an.
Non, mais Boris Johnson a dit, à un moment donné, il m'a en quelque sorte menacé, a dit « Boris, je ne veux pas vous faire du mal, mais avec un missile, ça prendrait une minute ou quelque chose comme ça. » Bon, ça, on peut sourire d'ailleurs, parce que tu as l'impression que c'est...
C'est de Boris. Ouais. Boris Eltsine, Boris...
Bien sûr.
Non, c'est, on parle de Vladimir Poutine.
Oui.
C'est plus Boris Eltsine.
Un problème sur les prénoms.
Ce n'est plus non plus Khrouchtchev.
Je le regrette. Je le regrette. Je regrette le temps glorieux de faire
des quiz sur les ministres de Mitterrand.
Celle-là, vous m'avez. Monsieur, alors, j'ai une question à vous poser, monsieur Ben Kemoun.
Bonsoir.
Monsieur Boris Ben-Kémoun, est-ce que vous avez vu, vous êtes un grand spécialiste du cinéma, est-ce que vous avez vu Babylone ?
J'ai vu Babylone, j'ai aimé Babylone.
Pensez, ce film qui divise la France.
Et divise le monde même, vous pouvez dire, c'est une catastrophe industrielle. C'est une catastrophe industrielle, le film est une catastrophe industrielle, mais moi j'ai adoré.
C'est-à-dire qu'il ne marche pas aux États-Unis.
Il ne marche pas aux États-Unis. À tel point, il n'a tellement pas marché. Mais tous les films de cette catégorie, tous les films, si vous voulez, tous les films pour adultes avec des gros budgets ne fonctionnent pas.
Donc, Avatar.
Mais Avatar, ce n'est pas un film pour adultes. Ah. Pas tout à fait, c'est un film familial. Celui-là, c'est vraiment un film pour adultes. La première scène, c'est pas un film pour la famille, je vous assure.
Avatar, c'est un film pour adultes.
Parce qu'Avatar, il a vu trois.
Non, mais. Bon, moi, j'ai aimé. J'ai aimé. Je vais vous dire pourquoi. C'est quand même. L'histoire est absolument formidable. C'est le moment où on arrive, où le cinéma parlant arrive, et toutes les stars du muet, qui sont vraiment des stars, qui ont un argent incroyable, qui font des fêtes formidables, sont en train de se casser la figure parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne savent pas jouer face à une caméra en parlant, ils ont une voix dégueulasse, etc. Donc,
c'était le scénario de Singing in the Rain, d'ailleurs.
Non, et puis le
mais
film,
c'était un livre, c'était un livre. Non, le film, les histoires de cocaïne, les histoires de drogue, etc.
Comment ça s'appelle ?
Downton Abbey.
Downton Abbey, c'est le dernier Downton Abbey, c'est là-dessus.
Exactement, tu as raison.
Bien sûr. Il y avait un bouquin qui s'appelait Babylone Hollywood, et c'est inspiré de ça, où il y avait toutes les histoires de drogue, d'alcool, de
moi, j'ai vu, etc. J'ai trouvé ça très bien, mais ça fait parler, évidemment. Ça fait parler, et c'est un film qui est intéressant.
Mais on ne va pas en parler dans le meilleur de l'info.
Non,
voilà.
Bien évidemment. Mais je voulais votre avis, parce que votre avis m'intéresse. Et puis Brad Pitt, quand même. C'est vrai que traverser la vie avec le visage de Brad Pitt, il est exceptionnel quand même dans le film. Et puis, comment elle s'appelle cette actrice ?
Margot Robbie.
Extraordinaire aussi. Bon, bah merci et le meilleur de l'info dans une seconde. Alors, j'ai plein de messages. Dès qu'on fait une erreur, j'ai le nombre de gens qui me disent Alain Savary. Mais vous, alors, je ne les cite pas, mais ils sont vraiment... Ils guettent vos erreurs.
Bien sûr.
Alors, évidemment...
Mais
quand
il
ne
fait
vous
pas
bon parlé,
pour la réforme.
Quand vous avez parlé de Boris Yeltsin qui gouvernait, là, vous ne vous êtes pas fait. Vous ne vous... Là, je pense que...
Le regret
il y a une communauté plutôt mobilisée le lundi soir.
Jean-Luc Lombard, je salue. Je salue tous ceux qui nous écoutent et qui nous font l'amitié de nous écouter. Ils sont très nombreux le soir.
Surtout le lundi.
Surtout le lundi et surtout, ils regardent le côté gauche, bien sûr. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, David Tonnelier était à la vision, Philippe et Bastien étaient au son, ont aidé à préparer cette émission. Lucas Busutil, Benjamin No, Léo Marcheguet et puis on a un petit nouveau avec nous, Maxime Leguet, qui est donc avec nous, que l'on salue et qui fait son entrée dans la préparation de cette émission. Merci, bonsoir, à demain, et demain c'est le grand jour.
On va en prendre plein la gueule.